Vous le savez peut-être, je rentre du Vietnam où j'ai passé 15 jours dans ce pays merveilleux, grouillant de vie et de dynamisme avec ces gens gentils, et ce n'est pas une expression dévalorisante, au contraire, la gentillesse est importante, des gens généreux, accueillants, très accueillants. Je me disais aussi avec qui on a partagé beaucoup d'humour, on a beaucoup ri, des gens travailleurs, courageux et qui, quelque part, ont une certaine, ce qu'on appelle résilience aujourd'hui, hein, cette capacité à dépasser les obstacles, tant leur histoire est rude. Et puis, il y a ces fleurs, ces fruits, ces paysages magnifiques, mais je ne suis pas là pour vous parler de tourisme. J'y étais donc avec le frère Michel, le provincial, pour nourrir ce lien entre ce que nous appelons la province mère, puisque ce sont des frères de Paris qui ont fondé les franciscains au Vietnam, et puis notre province fille, dont je vais vous parler un petit peu. Une église minoritaire, quelque part, dans un pays de 90 millions d'habitants, puisqu'il y a à peu près 8 à 9% de chrétiens, mais quand il y a 1000 chrétiens, là-bas, ça veut dire 1000 pratiquants. Donc ça change bien des choses par rapport à ici. Des églises pleines, beaucoup de jeunes, un dynamisme un petit peu aidé par le relâchement de la pression du gouvernement communiste depuis quelques années, un pays bouddhiste, communiste, mais où voilà, où l'Église est en train de grandir. Alors je vais essayer de partager avec vous la joie d'avoir contemplé ce que j'ose nommer une mission réussie, puisque c'est le dimanche des missions. D'autant que notre pape a voulu situer cette journée des missions dans le cadre de l'année de la vie consacrée, de la vie religieuse. Alors voilà, en quoi cette mission franciscaine au Vietnam depuis 1929, eh bien, je trouve qu'elle est assez réussie. Je vais parler d'un premier temps du nombre et de la jeunesse, dans un deuxième temps d'une mission franciscaine authentique, je crois, et puis aussi en troisième temps et rapidement d'une mission qui est toujours ouverte. D'abord, une mission réussie sans doute à cause du nombre et de la jeunesse de cette province franciscaine. En 1929, ce sont trois frères qui sont arrivés là-bas, à Vine, dont le père Maurice Bertin, dont on voit la photo partout dans les communautés, c'est le père là-bas. Hein. Vous savez, c'est des pays où, avec le confucianisme, les ancêtres sont très importants et la hiérarchie est fondamentale. Voilà, dans chaque communauté, il y a le père Maurice, et puis il y a Saint-François d'abord en haut, le père Maurice, et puis tous les frères qui sont morts dans la communauté où nous sommes. Voilà, ils étaient trois. Aujourd'hui, ils sont 182 frères professeurs solennels engagés à vie. 84 frères en formation, engagés temporairement. Et puis, il faut ajouter 20 postulants, 20 novices, et puis une soixantaine d'aspirants. On disait, dans un diocèse, il y a 40 places au séminaire, il y a 400 candidats. Alors, il y a un concours avec de l'anglais, avec une dissertation, avec le catéchisme, et puis une visite médicale aussi, voilà. Puis on prend que les meilleurs, enfin, ceux qu'on estime les meilleurs. J'espère que l'Esprit Saint pense la même chose. Hein ? Voilà, donc c'est étonnant de se retrouver devant ces groupes de jeunes frères. Ils sont à peu près 300 dans la province. Et puis, alors que nous, en France, on a dû rassembler nos provinces, là-bas, ils sont en train de penser à la couper en deux. Je garde vraiment en tête l'image de ces frères à Tuduc, ces frères en études, ces 80 frères. Ils sont beaux, quoi. Des jeunes, je pense, j'avais l'impression d'être devant une université anglaise, vous savez, on fait du sport, on a du travail manuel, une intelligence développée, une vie spirituelle, du relationnel, voilà. Des beaux jeunes, quoi. Hein, avec des visages très divers, puisque le Vietnam, même s'il compte 80% de Viet, est aussi composé de 20% d'ethnies différentes, donc il y a aussi une diversité. Des jeunes motivés, qui ont bien eu du mal à comprendre notre réalité française. Et puis avec ses frères, il y a eu deux couvents de Clarisse qui ont été fondés, et puis il y a 7000 laïcs franciscains au Vietnam. Voilà. Ça fait du bien, hein ? La mission du Christ, voilà, elle prend cher. Voilà, le nombre ne fait pas tout. Puis on sait aussi, les frères nous disaient, c'est pas simple d'accompagner autant de jeunes. La quantité ne fait pas tout, mais je me suis dit, il y a sans doute aussi une vraie qualité de mission franciscaine, authentique, et j'essaie d'en parler à partir des textes d'aujourd'hui. Dans la première lecture, Isaïe nous parlait de ce serviteur souffrant, broyé par la souffrance. S'il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance. Et c'est vrai que la vie de l'Église du Vietnam, comme celle de nos frères, n'a pas été facile dans ce courant communiste. Et elle a vécu une réelle expérience pascale, notamment quand en 1975, à la fin de la guerre avec les Américains, le gouvernement communiste a pris possession du pays dans son entièreté. Il a chassé tous les missionnaires européens, il a confisqué les couvents, et il a donné aux frères des lopins de terre à cultiver pour vivre, tout en pouvant assurer quand même une pastorale dans les paroisses. Ils vont vivre ainsi parmi les gens, travaillant de leurs mains pendant de 75 à 91, une vie simple, pauvre, et ils disent que c'est une grâce franciscaine qui leur a été faite de pouvoir sortir peut-être de nos institutions où on risque de s'installer pour vivre simplement parmi les gens. Et d'ailleurs, les gens leur en sont très reconnaissants. Oui, beaucoup relisent cela comme une grâce de vie franciscaine, quelque part contraint à la simplicité, à la pauvreté et à la proximité du peuple. On a eu faim, même, disait un des frères. Alors à l'époque, sur 200, il y en a 30 ou 40 qui sont restés seulement. Certains ont quitté avec les boat people, donc d'autres ont rejoint leur famille. Et voilà, un petit noyau a continué de vivre parmi les gens. Et puis l'Évangile nous dit, Jésus nous dit, ceux que l'on regarde comme chefs des nations leur commandent en maître, et il ne doit pas en être ainsi parmi vous. C'est bien ce qu'ont vécu et ce que vivent encore nos frères aux prises avec ce système communiste, avec les vexations des petits chefs locaux, les autorisations à demander pour tout. Tout ce qu'on doit faire, faut demander. Et même Frère Michel, il était prévu qu'il puisse prêcher un dimanche, ça ne lui a pas été permis, parce qu'il y avait du public et que, un occidental qui prêche, c'est dangereux. Et puis l'espèce d'arbitraire et de corruption généralisée, c'est très impressionnant. On ne voit pas ça tellement, nous, mais c'est présent partout. Pourtant, aucun frère n'est allé en prison depuis toutes ces années. Ils essaient de rester libres face au système, se refusant aussi à haïr les communistes. Et nous sommes tous frères, en cherchant les voies de la non-violence et de la minorité. Voilà, ils sont, c'est sûr, pris sous le commandement de ses maîtres et de ses chefs, mais ils essaient de vivre simplement en chrétiens, soumis à toute créature, comme le dit saint François. Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir, nous dit Jésus. Et c'est vrai que dans un pays de culture confucianiste, où la hiérarchie est très forte, où être prêtre, c'est être reconnu, même soutenu financièrement, si on le désire, c'est un défi pour les frères de rester simples parmi les gens, pauvres au cœur du peuple, proches des petits et des pauvres, et notamment... Plusieurs missions des frères sont parmi les minorités ethniques rejetées dans les montagnes. Et un frère me disait, il y a à peu près 250 personnes qui se convertissent, de païens il disait, qui se convertissent tous les ans. Et quand je lui demandais, mais pourquoi ces gens se convertissent, il me dit, parce que je crois qu'ils voient notre joie, notre amour pour eux, notre entraide, car nous partageons le plus possible avec eux. Il y a notamment toujours une période de l'année où ils n'ont pas de quoi manger. Et donc, on partage, on s'entraide. Et puis, à travers ça, ils découvrent la providence du Christ. Une fidélité à ces populations marginalisées depuis 50 ans. C'est aussi essayer de salarier des plus pauvres dans des cultures de caoutchouc ou de pépinières qu'ils sont en train de mettre en place. Être serviteur aussi pour nos frères, c'est... accepter, même si ce n'est pas toujours facile, de remettre aux évêques les paroisses une fois qu'elles ont été développées. Ils sont missionnaires et puis quand ça marche, eh bien on leur demande de rendre les paroisses. Ce n'est pas simple, mais c'est aussi une manière de se mettre à la suite du Christ. Voilà donc une quantité, une qualité, je crois aussi réelle, de vie évangélique. Et puis une réalité toujours missionnaire. Ils sont nombreux. Il y a du travail, bien sûr, au Vietnam, mais déjà, ils ont fondé au Laos, et puis au Cambodge, et puis en Birmanie. Et puis on était là avec Frère Michel aussi pour leur demander s'ils pourraient pas venir nous aider, parce qu'on a besoin. Donc il y a au moins un jeune frère qui s'est dit intéressé pour venir vivre en France, partager la mission. D'autres le feront peut-être, mais ça m'est vraiment apparu comme un défi interculturel colossal. Pour eux, je crois, ils vivent une réalité ecclésiale qu'on vivait il y a 60 ans dans notre église, quelque part. Et pour autant, ils ont des choses tout à fait nouvelles à nous apporter. Voilà, je crois que c'est tout le défi de la mission aujourd'hui. On le voit d'ailleurs dans notre bonne ville de Brive, où, avec Jean Rigal, il y a 3 prêtres africains, un prêtre chinois. Et je me disais, est-ce qu'on fait vraiment l'effort de les accueillir, vraiment, qu'ils se sentent aussi accueillis ici que moi je l'ai été chez eux? C'est important. La mission, c'est aussi cette vie fraternelle, partagée, cet accueil mutuel de nos différences. Alors voilà, je vous invite simplement à prier ensemble pour rendre grâce de ces missions réussies aux quatre coins du monde, avec les ambiguïtés qu'il y a partout. Il y en a autant là-bas qu'ici, mais il n'empêche que prier et rendre grâce pour cette mission qui continue, qui se renverse quelque part, puisque aujourd'hui ce sont les pays du Sud qui viennent nous évangéliser, qui viennent nous soutenir. Puis prier pour que chacun de nous, en ce dimanche des missions, soit vraiment renouvelé dans ce désir d'être témoin du Christ. J'ai envie de relire pour finir cette si belle phrase de la lettre aux Hébreux. Avançons-nous donc tous avec assurance vers le trône de la grâce pour obtenir miséricorde et recevoir en temps voulu la grâce de son secours. Tout homme est invité à s'avancer avec assurance vers le trône de la grâce pour obtenir miséricorde et recevoir en temps voulu la grâce de son secours.